Nous vous recommandons de ne pas modifier pendant l'écoute le réglage.
Je capte plus rien.
C'est déjà assez difficile sur la fréquence micro-ondes, mais sur la fréquence modulée avec toutes ces interférences, j'ignore pourquoi je t'écoute.
Vous écoutez Allegre FM.
Il s'agit au contraire de redonner à cette notion de service public son véritable sens.
93.1.
Pourquoi ne pas chercher une aiguille dans une botte d'aiguille?
01 40 24 29 29.
Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et détendez-vous le plus possible.
Voilà, maintenant vous pouvez arrêter la télévision, vous verrez, ça fait du bien.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui nous arrive là? Oh là là, où en sommes-nous? Où en sommes-nous là? Mais c'est bien sûr, où avais-je la tête? Ben oui, c'est l'heure de l'émission. Nadine Laoud, c'est quoi votre légume préféré? Votre fleur préférée? On va commencer par le légume.
Les pommes de terre.
Pourquoi?
Ben, j'adore les pommes de terre, je sais pas, je suis une fille patate. Je sais pas si pour vous dire plus.
Et votre fleur préférée?
Ma fleur préférée, oh là là, je sais pas, je les aime toutes.
Je suis sûr que vous aimez les roses.
Non.
Ça pique, alors attendez, on attend d'être dans le micro, Nadine, hein. Sinon ça, l'auditeur il n'entendra pas. Bon, les roses c'est pas votre truc.
J'aime le parfum des roses, mais à cultiver c'est pas mon truc, c'est en fait, mais bon.
Et vous Caroline Turquet, quel est votre légume préféré?
Moi j'aime trop de légumes pour en avoir des préférés. J'aime les légumes de saison, donc pouvoir changer de légumes au fil des mois et de l'année.
Et votre fleur préférée?
Bah pareil, faut qu'il y en ait tout le temps. Donc bah là en ce moment ça va être les jonquilles, les narcisses, mais je vais faire pousser des dahlias qui vont venir beaucoup plus tard. Je vais avoir les fleurs de sauge ananas qui sont super bonnes à manger. Enfin il y a plein de choses. Non, j'arrive pas à avoir de plantes préférées. C'est comme les couleurs, c'est comme tout.
Eh bien, vous le voyez, on va parler aujourd'hui de légumes, de fleurs. Mais oui, alors là, attendez, je suis en train de faire une émission. Là, j'ai besoin d'avoir un peu de concentration. Nadine, elle est en train de me mettre sous le nez, je ne sais pas quoi. On va voir ça, hein, durant cette émission. Des questions qu'on va se poser tous aujourd'hui sur une forme d'agriculture très particulière. Allez, durant ces 56 minutes qui vont suivre, mais avant d'entrer plus loin dans le détail avec vous, mesdames, c'est tranquillement, hein, on a le temps, vraiment, j'insiste lourdement, hein, voilà, que nous allons prendre le temps de découvrir progressivement pourquoi nous sommes ici aujourd'hui et qu'est-ce qui va se passer dans cette émission. Et on va apprécier ce qui se passe parce qu'on va donner du temps au temps et ici, on donne du temps au temps. Il faut beaucoup de temps pour ce qui se passe ici, voilà. Allez, j'en dis pas plus pour l'instant, en route, on y va, c'est parti pour de nouvelles aventures.
Bonjour, vous savez où vous êtes? Eh bien vous êtes sur la messagerie de l'émission L'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Allegre FM 93.1. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Au bip, vous laissez votre message.
N'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans l'étincelle dans la ville sur Allegre FM. Je suis très heureux de vous retrouver. Nadine Laoud, bonjour.
Bonjour.
Et Caroline Turquet, bonjour.
Bonjour.
Alors, mesdames, merci d'avoir bien voulu accepter de nous rencontrer au micro de l'étincelle dans la ville sur Allegre FM. Nous sommes en votre compagnie car vous allez témoigner aujourd'hui à propos d'un sujet passionnant qui vous tient à cœur, hein, c'est très clair. Hein. J'ai vu en arrivant, en préparant cette émission, et puis on a eu un petit entretien avant le début de cette émission. C'est très clair, ça vous tient à cœur. Alors, c'est vrai que vous m'avez contaminé toutes les deux quand j'ai reçu les informations concernant vos fermes urbaines, parce que c'est de cela que l'on va traiter. Eh bien, j'ai été séduit. En décidant de traiter ce sujet, j'ai découvert que vous évoluez dans un univers incroyable. Vous évoluez dans l'agriculture, mais il s'agit d'une agriculture tout à fait atypique, dans un environnement atypique, c'est clair, ici, là où nous sommes. L'agriculture est un domaine qui anime de nombreux débats en France, mais c'est aussi des débats qui ont lieu dans le monde entier. C'est un problème mondial, l'agriculture. C'est le point de départ pour nourrir le monde, on en a tous conscience. On emploie souvent le terme de terre nourricière. L'agriculture que nous connaissons, c'est celle de nos campagnes avec ses exploitations agricoles. Ça abrite des fermes agricoles, c'est celle que l'on rencontre hors des villes, hors des grandes métropoles, hors des agglomérations. Et cette agriculture a souvent besoin de surfaces importantes. Mais aujourd'hui, avec vous, mesdames, c'est une toute autre histoire. C'est une autre agriculture dont nous allons parler. Nous sommes actuellement dans un endroit hors des sentiers battus de cette agriculture que je viens de décrire. Et de surcroît, un endroit fort sympathique, très étonnant, siège d'une agriculture réelle et j'ai envie de dire d'une autre agriculture. Nous sommes à Paris, dans le 18e arrondissement de la capitale, aux 4 rue Eva Kotchever, près de la Porte de la Chapelle, à l'école Kotchever. Alors, ça se passe dans une école en plus. Il règne ici une organisation très particulière, j'ai envie de dire une organisation et un accueil très spécial. Nous sommes à la campagne, en pleine ville, sur les toits d'une école. Tout autour de moi, des buildings de 20, 10, 15, 30 étages à peu près, qui nous entourent, c'est incroyable. Et c'est une sorte de campagne en pleine ville, avec une ferme urbaine au beau milieu de la ville, une étincelle dans la ville à quelques encablures du boulevard périphérique. Le boulevard périphérique, on le voit d'ici, de votre jardin, c'est incroyable. Et cet endroit chaleureux et sympathique et plein de ressources. Un petit bout de terre nourricière, c'est donc depuis cet endroit que nous réalisons cette émission. Et ce n'est pas par hasard si nous sommes ici. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que tous nos invités, c'est la tradition dans cette émission, eh bien, durant ces 56 minutes, eh bien, vous êtes les étincelles de cette émission, tout simplement. Nadine Laoud, vous êtes membre de l'association Veniverdi et fondatrice de l'association Veniverdi et administratrice de la FAUP. Alors la FAUP, c'est l'association française de l'agriculture urbaine professionnelle. On entrera dans le détail sur la FAUP, bien sûr. Et je suis en compagnie de Caroline Turquet. Vous êtes animatrice de la ferme urbaine. Nous sommes installés donc, à l'école Kotchever, qui est gérée par l'association Veniverdi. Alors pour commencer, on va essayer de définir ce terme que vous m'avez évoqué, car je pense que grand nombre de celles et ceux qui nous écoutent ne savent pas du tout à quoi correspond une ferme urbaine. Alors, Nadine Laoud, c'est quoi une ferme urbaine ?
C'est une ferme où on produit du comestible.
C'est tout ?
C'est tout. À partir du moment où il y a du lieu de la production comestible, c'est une ferme. Et là, vous pouvez avoir des végétaux comme c'est notre cas, des poules, des vaches, etc. etc. Dans notre cas, on a juste les végétaux.
Vous avez aussi des fleurs ici ?
Oui. C'est un végétal, donc on a des fleurs, des petits fruits, du maraîchage, des légumes, des arbres fruitiers, et tout ce que vous pouvez imaginer qu'on peut faire pousser ici en ville. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? On produit en ce moment, arrivent gentiment les poireaux, puisque c'est à la mode les poireaux en ce moment.
Pourquoi c'est à la mode les poireaux ?
Parce que tout simplement, nos amis agriculteurs, on en produit des tonnes, parce que le temps a été très doux, et il faut les écouler, les poireaux, les patates, les carottes, les choux. Voilà, il faut que nous mangions tous des poireaux, des patates et des choux en ce moment pour soutenir, un, les agriculteurs qui les ont produites, et deux, parce que ça fait du bien à la santé.
Alors, si on regarde un peu en arrière, en fait, l'agriculture urbaine, elle a toute une histoire. Nous sommes en 1896, c'est la naissance des jardins ouvriers et familiaux, le point de départ. Cette année-là, c'est grâce à l'abbé Jules Lemire, député du Nord, qui fonde la Ligue française du coin de terre et du foyer et qui a pour objectif de mettre à disposition du chef de famille ouvrier un coin de terre pour y cultiver des légumes nécessaires à la consommation. On arrive dans les années 39-45, là ça devient compliqué. Le mouvement continue à se développer avec des jardins potagers indispensables car c'est la pénurie, l'approvisionnement alimentaire, c'est la guerre, c'est l'occupation, les produits sont en priorité, bien sûr, rationnés et donnés à l'occupant. Et évidemment, pour les habitants des grandes villes, c'est très compliqué. Arrive 1952 où le terme « jardin familiaux » est remplacé par celui de « jardin ouvrier ». Et ça rentre dans le code rural. Ouais, c'est ce que j'ai lu. C'est l'inverse ? Bon, bah c'est l'inverse, c'est pas grave, les auditeurs corrigeront, voilà. Ces jardins familiaux connaîtront une certaine désaffection pendant les 30 Glorieuses, Nadine Naoud. Revenons à la FAUP, l'Association française de l'agriculture urbaine professionnelle, si vous le voulez bien. Finalement, j'ai l'impression que vous avez voulu prendre le relais de ces jardins. C'est un peu ça, hein. Vous êtes assis sur cette histoire. Ça a démarré il y a très longtemps. Ce n'est pas vous qui les avez inventés, bien sûr, mais vous les perpétuez. Alors, c'est quoi la FAUP et que ça sert à quoi ?
Alors, la FAUP, c'est tout simplement une association qui fédère les acteurs de l'agriculture urbaine et périurbaine pour représenter nos intérêts, tout simplement.
Alors, c'est quoi vos intérêts ?
Nos intérêts, c'est l'accès au sol, c'est-à-dire les conventions d'occupation ou les bails qui nous sont proposés. C'est sécuriser le porteur de projet dans son activité, parce que nous sommes sur des activités sur de très long terme. C'est aussi expliquer ce que c'est l'agriculture urbaine, l'agriculture en ville, expliquer au plus grand nombre ce que c'est. Et aussi, puisque nous sommes amenés à être de plus en plus présents en ville, on milite pour ce qu'on appelle un quartier, une ferme. Chaque quartier de Paris, en tout cas, puisque nous sommes à Paris, devrait avoir sa ferme pour les habitants. Voilà, nous travaillons dans ce sens-là, pour développer, maintenir et offrir à chacun de nos citoyens la possibilité de venir dans une ferme. Nous ne sommes pas, on ne s'assoit pas sur les jardins partagés, les jardins familiaux. Nous sommes une action différente et complémentaire les uns et les autres parce que nous ne sommes pas dans la même façon d'agir et de gérer.
C'est quoi la différence ?
Un jardin partagé, par exemple, c'est plusieurs personnes à leur propre compte qui s'installent et qui se fédèrent pour produire ensemble, se retrouver autour d'un jardin et se partager les récoltes entre eux. Un jardin familial fonctionne à peu près sur le même principe, sauf que chacun a sa parcelle. Jardin familial, jardin ouvrier, c'est le même fonctionnement, chacun a son espace et le cultive. Tandis que nous, les acteurs de l'agriculture urbaine, nous avons des espaces beaucoup plus grands et nous produisons beaucoup plus en volume. Après, dans les acteurs de l'agriculture urbaine, les fonctionnements peuvent évoluer. Il y en a qui sont sur des modèles très professionnels de production, il y en a qui sont sur des modèles très sociaux, comme c'est le cas de Veniverdi.
Alors, on va y venir à Veniverdi, hein, parce que évidemment c'est l'association qui gère le lieu où nous sommes aujourd'hui, mais je voudrais quand même revenir à cette agriculture urbaine qui permet de faire vivre des espaces jardinés et cultivés, d'installer des lieux fertiles pour la nature en ville, de développer l'agriculture de proximité. Alors, cette agriculture rassemble toutes les pratiques agricoles qui ont lieu. Elles ont lieu donc en ville, autour des villes, pour lesquelles il existe des alternatives. Car en fait, vous êtes tout le temps en train de chercher des espaces pour développer vos fermes.
En général, les acteurs, oui, surtout ceux qui veulent se développer ou s'installer et démarrer, oui, on est toujours à la recherche d'espace. Concernant Veniverdi, là, on est un peu au repos, on en a plusieurs à gérer, ça nous suffit pour l'instant.
Ça représente combien de fermes urbaines à Paris ?
Veniverdi, c'est 9 fermes, et une à Paris, dans l'Est parisien, et 1 hectare en Seine-Saint-Denis.
1 hectare en ville ? À quel endroit ?
À Sevran. Sur la ville de Sevran, on a 1 hectare là-bas, on est en train de l'installer, de l'aménager. Et c'est un très beau projet avec une très forte dimension sociale puisque Sevran est une ville pauvre, fait partie des villes les plus pauvres de France. Et c'est aussi, il faudrait prendre conscience que nous sommes dans certains quartiers, les jeunes publics sont face à une alimentation très limitée, c'est-à-dire que c'est le sandwich grec, les bonbons, caramel et chocolat. Et donc on a tout un travail sur lequel nous a sollicité la mairie pour faire évoluer l'alimentation puisque là-bas, beaucoup de jeunes gens ont des maladies dites chroniques, diabète, cholestérol, hypertension, obésité. Et ça vient évidemment de l'alimentation. Et donc l'idée et la volonté de la municipalité de Sevran, c'est de mettre à disposition et au plus proche des citoyens la possibilité de se nourrir sainement à des prix hyper accessibles.
Alors, c'est un vœu évidemment formidable ce que vous nous racontez, Nadine Naoud. Mais comment vous faites pour les convaincre, pour les attirer, et ces jeunes qui s'alimentent très mal ?
Oh ben, on n'a pas besoin de faire un gros effort, ils s'en rendent bien compte par eux-mêmes, donc ils viennent spontanément.
Tout seul comme des grands, ils disent tiens c'est formidable, il y a une ferme urbaine, je vais venir et bonjour. Et là je vais arrêter les chocolats, je vais arrêter les barres de chocolat, je vais arrêter les burgers et je vais manger des carottes et des tomates.
C'est magnifique comme vous le dites, j'aimerais bien que ce soit comme ça, non ? Mais non, c'est pas comme ça, il y a effectivement tout un travail de mobilisation, encore que nous avons des jeunes gens qui prennent conscience. Je ne sais plus quand, il y a eu une grosse conférence dans Seine-Saint-Denis où les jeunes ont pris la parole et ont expliqué qu'aujourd'hui, quand ils cherchaient à manger, à se nourrir, autour d'eux, il n'y avait que des restaurants qui proposaient du snacking et des choses comme ça, et qu'il n'y avait pas des lieux qui proposaient une alimentation comestible et accessible. Donc ces jeunes publics, on a rencontré, on a beaucoup échangé avec eux, ils nous parlent de créer des restaurants sociaux, des choses comme ça, pour que chacun puisse s'alimenter. Ça devient un véritable enjeu parce que J'aurais aimé qu'ils viennent comme vous l'avez dit, hein, mais ils prennent petit à petit conscience que ça a des conséquences sur leur santé réelle. Et il faut bien savoir que tout ce qui touche au changement climatique, à l'effondrement du vivant, à l'alimentation, c'est les quartiers dits populaires qui sont les plus impactés, et réellement et sérieusement impactés. Donc la prise de conscience aussi, il y a des acteurs dans les banlieues qui se mobilisent aussi. Il y a Banlieue Climat qui est très connu, qui va apporter la parole auprès des jeunes dans les quartiers en leur expliquant pourquoi il faut qu'ils se mobilisent par rapport aux enjeux climatiques et l'effondrement du vivant.
Alors revenons à vos fermes urbaines, mesdames, si vous le voulez bien. En fait, il y a trois caractéristiques qui définissent l'agriculture urbaine, Nadine Lahoud. Alors, il y a les contraintes spécifiques, alors les pollutions, l'accessibilité, les règles d'urbanisme, l'ensoleillement limité, le vandalisme et bien d'autres. Comment vous faites ?
À quoi je réponds là ? Il y en a eu plusieurs d'un coup, c'est énorme. Alors le vandalisme, je touche du bois et mes oreilles, on n'en a pas subi une seule fois. Et encore, c'était pas vraiment ciblé sur nous. On est sur les toits, donc c'est pas facile d'accès.
Donc, la pollution ?
Alors la pollution, on est sur ce qu'on appelle des sols maîtrisés, c'est-à-dire c'est nous qui constituons nos sols, donc on sait qu'ils sont propres.
Et la pollution atmosphérique de la ville de Paris ?
Pollution atmosphérique, on a deux sortes de particules dans l'air. On a ce qu'on appelle les particules fines, qui viennent joyeusement au dépôt d'échappement des voitures. Non, je vais pas les cibler. Et ces particules fines...
Ça veut dire que les voitures polluent vos cultures ?
Polluent tout, et particulièrement le vivant, le mammifère que nous sommes, parce que les particules fines, c'est pas sur mes légumes que je les crains le plus, c'est dans, au fond de mes poumons, parce qu'on les respire au quotidien, et une bonne bouffée là, et vous envoyez plein de particules fines au fin fond de vos chairs. Et la bonne nouvelle, c'est que les particules fines ont la gentillesse de partir au lavage, donc à partir du moment où vous lavez vos légumes, elles partent. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les métaux lourds, mercure, arsenic et tout ça, lourds, bah ils ont du mal à monter jusqu'au toit. Et quand bien même ils montent, le peu qu'ils montent, puisque nous sommes régulièrement, tous les 2-3 ans, on a des prélèvements qui sont faits par l'INRAE, l'AgroParisTech, et qui analysent, et je touche encore du bois, parce que j'aime le bois, ils n'ont rien trouvé pour l'instant.
Alors, on rappelle ce que c'est que l'INRA, c'est l'Institut National de Recherche Agronomique, donc qui vous certifie que vos sols ne sont pas pollués. J'ai bien tout compris ?
Sols et légumes, ils analysent les deux. Et en même temps aussi, l'AgroParisTech aussi mesure la montée du vivant, parce que quand on passe d'un lieu complètement minéral, et qu'on installe de la terre, des plantes, des végétaux, des fleurs, etc., ben on attire toute une vie du sol, et une vie sur ce qu'on appelle les insectes pollinisateurs. Et au passage, s'il y a des insectes pollinisateurs, il y a des petits oiseaux.
Et oui, il faut fertiliser tout ça, bien sûr, il faut féconder tout ça, voilà, chercher le terme. Je rappelle que nous sommes à Paris, dans le 18e arrondissement de Paris, au 4 rue Eva Kotchever, près de la porte de la chapelle, à l'école Kotchever, qui abrite une ferme urbaine gérée par l'association Veni Verdi. Et nous sommes en compagnie de Nadine Lahoud, membre de l'association Veni Verdi, fondatrice et administratrice de l'AFOP, l'association française de l'agriculture urbaine professionnelle, et Caroline Turquet, animatrice de la ferme urbaine installée à l'école Kotchever, gérée par l'association Veni Verdi. Alors, si vous me permettez, mesdames, on va faire une pause, hein, ça va nous faire du bien. La musique qui va suivre fut composée par Marc Gildas, on l'appelait Rude Lion. Personnage hors norme, je suis sûr qu'il vous plairait ce personnage, vous allez voir la suite. Personnage hors norme, à la fois bandit, pianiste, compositeur de reggae, de rap, membre de l'entourage d'artistes comme Tonton David, Expression Directe et Mafia Cain Fry. Il finira, le pauvre, triste destin, assassiné en 1999. Rude Lion ne sera pas crédité comme compositeur par le chanteur que nous allons écouter et qui fut son interprète, mais seulement comme pianiste. Elle est à ce jour, cette chanson, un des classiques de ce chanteur. Cette chanson est sortie en 1994 sur l'album Chatterton. On écoute Ma Petite Entreprise, c'est Alain Bashung, c'est sur Aligre FM, c'est dans l'étincelle dans la ville.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Pas la crise, épanouie et l'exil, des trésors satinés, dorés à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise, inlassablement se dévoile de mes doigts de palper, palper là cet épiderme. Que je
je me dresse, qui fait que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée et les vacances.
Abstinence,
ma petite entreprise, ma locomotive,
avance au mépris des sémaphores. Le tir du néant.
Qu'importe l'amour, importe. Qu'importe l'amour s'exporte. Qu'importe le porte-à-porte en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbies en Libye, au Laos. Là j'écoule à mes oreilles. Ma petite entreprise connaît pas la crise, s'expose au firmament, suggère la reprise, embauche de gauche, inlassablement se dévoile, et mes doigts de palper, palper là cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier. Escalier, c'est bâtiment B. À l'oreille de ce lèvre. Qu'importe l'amour importe. Qu'importe l'amour s'exporte. Je perds le nord, Garpam. Quand je vois se poindre les pyramides, néanés, mes lubies. Si coule à mes oreilles, ma petite entreprise connaît pas la crise, épanouie et l'exhibe des trésors satinés, dorés à souhait. Le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi.
Messagerie, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de l'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Aligre FM. Laissez-moi votre message juste après le bip.
La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Voilà, c'était ma petite entreprise interprétée par Alain Bachung sur Aligre FM. C'est dans l'étincelle dans la ville. C'est la suite de notre émission que nous continuons depuis le 18e arrondissement de Paris à la rue Eva Kochevert, voilà, j'ai du mal à le prononcer, près de la porte de la chapelle. Et c'est géré par l'association Veniverdi. Qu'est-ce qu'elle gère ? Eh bien, une ferme urbaine où nous nous trouvons actuellement. Nous sommes à la découverte du travail méticuleux et précis qui est réalisé ici dans cette ferme. Une ferme qui a pris racine dans cette école avec nos deux invités, je le rappelle, Nadine Laoud, membre de l'association Veniverdi, fondatrice et administratrice de la FAUP, l'association française de l'agriculture urbaine, et Caroline Turquet, animatrice de la ferme urbaine installée à l'école Kochevert est géré aussi par l'association Veniverdi. Vous restez bien avec nous pour cette deuxième partie de l'émission, car nous allons maintenant nous intéresser à ce qui se passe dans cette ferme urbaine. Nous allons faire une petite visite. Alors, je m'adresse à vous, Caroline Turquet. Avant de commencer la visite, bien sûr, en quoi cette ferme urbaine prépare-t-elle la ville aux enjeux sociaux, environnementaux et alimentaires ?
Eh bien, déjà en proposant un espace urbain et végétal, et en proposant un lieu où les gens échangent sur des sujets divers et variés comme les problèmes environnementaux, comme l'accès à une alimentation saine et durable, comme où les gens vont aussi apprendre à se connaître. J'ai une journée d'accueil de bénévoles qui permet à des gens qui ne se seraient jamais rencontrés dans la vraie vie d'échanger, de passer un moment ensemble, de travailler la terre ensemble, de goûter des choses ensemble, d'échanger des recettes. Et cela entre des personnes de culture et nationalité et milieux sociaux très différents.
Après cette explication très détaillée, on va aller se balader. Allez, si vous me permettez, je vous emmène avec nous, Nadine et Caroline. Ah, on fait le tour par l'autre côté, d'accord. Ah oui, parce que là, on a des allées tout autour, mais à un moment donné, on va rentrer dans le jardin. Je vous laisse passer.
Ouais, là, on va rentrer dans la forêt comestible, qui est une parcelle qui fait à peu près une centaine de mètres carrés. Alors nous, ici, on est en pleine terre sur toit. Donc, on a un bac de béton rempli, là, pour le coup, de 80 cm d'épaisseur de terre, ce qui est énorme pour un toit parisien. Tout le reste du jardin est à 40 cm d'épaisseur de terre. Et là, donc, dans ces 80 cm, on a pu planter une douzaine d'arbres fruitiers, très serrés, mais c'est un choix cultural.
Il y a quoi comme arbres fruitiers ?
On a un pêcher, deux abricotiers, sept pommiers, des cassissiers, des groseilliers, on a un lilas, un sureau, un petit eucalyptus, on a de la menthe, on a de l'ail, on a des œufs chers, on a de l'ortie.
On y va ?
On y va.
Allez, c'est parti. Alors, faut monter quelques petites marches. Voilà. Alors là, nous voilà au milieu du jardin. Ça y est, on marche sur la terre et on a ces arbres qui commencent à bourgeonner d'ailleurs.
Ouais.
Alors attendez que j'approche mon micro. Là, je suis au milieu de la forêt. C'est vraiment une forêt en plus. Hein. Petite, mais c'est une forêt. Voilà. Racontez-nous, c'est le bourgeonnement, ça y est, ça commence ?
Oui, là, on est au milieu des fruitiers, donc ils sont déjà en fleurs, ce qui ne m'arrange pas tellement parce que j'ai peur qu'il y ait un retour de froid là, dans les temps à venir et ce n'est pas bon pour les arbres. Là, voilà, le pêcher qui a donné il y a 2 ans 35 kilos de pêche sur une saison, ce qui est pas mal.
Vous en faites quoi de ces pêches ?
Alors, on les donne aux bénévoles qui viennent nous donner un coup de main le vendredi. On en vend une partie à une petite épicerie de circuit court qui est à moins de 15 minutes du site. Les membres de l'équipe les consomment parce que voilà, ça compense les petits salaires.
Voilà, donc une épicerie juste à côté, une agriculture de proximité.
Oui, c'est ça. Et puis on donne aussi, on en fait profiter aussi les enfants de l'école. Et quand on a suffisamment de production, on les transforme de manière un peu comme ça, artisanale, et pendant des ateliers avec peut-être d'autres associations qui sont bien équipées, qui ont des cuisines collectives, enfin des cuisines associatives.
De la confiture, j'imagine.
Oui, bah avec les abricots. L'année dernière, on a fait du sirop abricot romarin. Enfin, les enfants du club jardin ont fait un sirop abricot romarin pour la fête de l'école.
Simple.
Ou un sirop de menthe aussi pour la fête de l'école, qui ont eu tous les deux un succès phénoménal.
Voilà, donc une activité créatrice d'activités économiques, vous venez de nous le raconter, Caroline Turquet, une activité de proximité, on vient de le voir, ça se passe à côté de votre jardin, vous alimentez un point de vente. Caroline Turquet, tout ça, est-ce que ça fait des émules dans le quartier ? Parce que là, je vois tous ces immeubles autour de nous. Vous m'avez dit en préparant cette émission, c'est incroyable. Je vous ai dit, mais ils voient votre jardin depuis leur fenêtre là. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 buildings, enfin des petits buildings. Hein. On n'est pas à New York, mais enfin quand même, ils sont assez hauts. Ils font quoi ? 15, 10, 15 étages. Et ils ne viennent pas. Pourquoi ?
Alors, certains...
Parce que c'est ouvert ici. On peut s'y rendre de façon... Alors, vous allez nous raconter d'ailleurs comment on peut s'y rendre.
Alors, c'est ouvert dans un certain cadre, parce que, alors, juste un petit rectificatif, je ne suis pas animatrice de ce site, je suis coordinatrice du site. Ça veut dire que mon travail va très au-delà d'un simple travail d'animation. C'est-à-dire que là, c'est la partie visible de l'iceberg, mais il y a tout un travail sur le territoire qui se fait en dehors de ce jardin. Il y a de la recherche de financement, enfin voilà, c'est plus de la gestion de projet que de la pure animation. Pour répondre à votre question, là, on a quand même deux bâtiments complètement vides. On a un bâtiment de bureau, donc c'est une vision de la ville qui date.
Un vide avec des gens qui travaillent dans des bureaux ?
Non.
Vide. Ah, complètement vide ?
Ouais, totalement inoccupé. Donc celui-ci nous sert, c'est génial. Ce bâtiment vide nous sert de... nous réverbère en fait le soleil sur le jardin, donc crée une sorte de microclimat. Je trouve que ça fait un peu cher comme technologie, mais non, le bâtiment est complètement vide, il ne sert à rien à part nous réchauffer notre terre ici. Et l'autre bâtiment là-bas, pareil, il ne s'y passe rien du tout. Le seul bâtiment habité, c'est ce gros doré et ces tours là.
Ça représente quand même quelques, je sais pas, une centaine de logements.
Ah oui, plus que ça, oui. Non, non, on touche un petit peu les parents d'élèves, des élèves de l'école. Après, on va toucher les membres des associations du quartier. On va, mais oui, oui, c'est un peu compliqué. Alors, ce sont des gens qui sont installés au moment du confinement. Je sais que c'est compliqué pour les habitants de vivre là. Enfin, c'est un programme immobilier un peu particulier. C'est pas un endroit facile. On est en quartier politique de la ville. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont d'autres priorités que de venir s'amuser à jardiner ou qui, pour qui c'est, voilà, c'est pas forcément dans la culture ou dans le oui, les problématiques de vie, quoi. Et mais bon, on a quand même, je sais pas, il y a eu en nombre d'heures de bénévolat, j'ai eu à peu près 1200 heures de bénévolat d'aide en 2025, donc de personnes qui sont venues aider au jardin, et je peux compter sur j'ai un noyau dur d'une dizaine de bénévoles qui viennent vraiment très régulièrement tout au long de l'année, donc des gens qui habitent dans le quartier, on va dire dans le 18e, ou des gens qui s'intéressent à l'agriculture urbaine, ou des gens qui sont un peu passés par hasard, comme j'ai un super bénévole qui s'appelle Touguay, qui un jour nous a vu monter des bottes de paille de l'autre côté, là dans la rue, on était juste deux à faire ça, il a proposé son aide, il se demandait ce qu'on fichait avec nos bottes de paille, il pensait qu'on avait des animaux sur le toit, et en fait quand il est arrivé, il a découvert le toit, il était halluciné, enfin il était vraiment... il est venu, ça s'est passé en février l'année dernière, ça fait un an qu'il vient pratiquement toutes les semaines.
Eh bien, Caroline Turquet, j'ai la même sensation ici, je suis halluciné, voilà. Et de vos explications nous donnent quelques précisions. Allez, on continue la petite visite. Alors, là, il faut passer sous les branches. Voilà.
Voilà, donc là, par exemple, ici, on a un sureau qui est de belle taille et sur lequel on récolte les fleurs qu'on fait sécher pour faire des tisanes. Et puis, qu'on utilise aussi pour faire des boutures. Pour proposer donc aux gens autour de nous des jeunes plants de sureau à mettre. J'aimerais bien végétaliser tous les balcons de ce quartier, mais bon, c'est un peu compliqué. Mais voilà, ça, c'est un arbre super précieux. On a un magnifique...
Et oui, je vous arrête. Oui. C'est vrai que c'est rempli de balcons, tous ces bâtiments. On pourrait y installer des tas de plantes.
Ouais, sauf que ce sont des bâtiments très hauts et des balcons très venteux. Et en plus, la conception du lieu est assez... Enfin, il y a eu des ratages. Il y a des gens qui n'osent pas aller sur le balcon parce qu'ils reçoivent les volets en pleine figure ou les balcons ne sont pas sécurisés. Enfin, bon, c'est compliqué.
Ah, c'est compliqué. Alors, on va continuer avec des choses plus simples dans votre jardin.
Ouais, dans les choses simples et très, très belles et dont je suis très fière, j'ai un poivrier du Sichuan.
Un quoi ?
Un poivrier du Sichuan qui pousse là, qui est cet arbre avec des grosses, grosses épines qui est droit devant. Qui a donné sa première production l'année dernière, en 2025. Donc on a récolté 300 grammes de poivre. C'était assez satisfaisant comme moment. Et puis après on a des cassis là tout du long. On a ce que vous voyez, les tas de terre, c'est du compost qu'on a fait monter la semaine dernière. On était une quinzaine de personnes à monter à la force des bras 5 mètres cubes de compost et de terreau.
Caroline Turquet, là on est dans la forêt. Allez, on va ressortir, ouais. Puis on va continuer la visite de l'autre côté où il y a un grand jardin. Alors là, je ressors de la forêt en faisant très attention parce que c'est petit mais c'est grand. C'est grand et c'est petit en même temps. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un potager ?
Alors après, on va voir la partie petit maraîchage qui fait à peu près 30 mètres de long par 13 mètres de large, où on a 40 cm de terre. Donc là, on est sur un bac d'un seul tenant qui fait que les plantes interfèrent les unes avec les autres, contrairement à d'autres sites de Véniverdi où on est sur de la dalle. Et sur un autre type de substrat. Donc là, on est plus comme dans un vrai jardin, comme dans la forêt. Sur ce toit, on est dans, à peu près dans les mêmes conditions que dans un jardin, le jardin d'une maison.
Comme le jardin de mon grand-père.
Comme le jardin de votre grand-père.
Allez, on y va. C'est parti. Alors là, il y a une grande allée qui longe la forêt. On laisse la forêt derrière nous. Et on arrive dans ce jardin. Alors là c'est stupéfaction. Poireaux, alors moi je connais pas grand chose, hein, je suis pas un spécialiste, mais vous allez nous raconter.
Ouais, bah ici, en fait, sur cette terrasse, au dernier inventaire, on avait à peu près 135 variétés différentes de plantes, en incluant les adventices, donc celles qu'on appelle les mauvaises herbes, qui ne sont pas pour moi de mauvaises herbes. Ici, on va avoir pas mal de vivaces. Donc, on a plein de plantes aromatiques. Là, il y a de la sarriette, du thym.
Alors, les vivaces, on raconte ce que c'est ?
Vivaces versus annuelles. Donc, les vivaces sont des plantes qui ont un cycle de vie sur plusieurs années. Et les annuelles, bah, comme le nom l'indique, sur un an. Donc, les annuelles sont replantées chaque saison. Enfin, le jardinier doit ressemer chaque année. Ou compter sur le fait que la plante essaime toute seule et repousse à cet endroit-là. Et par contre, les vivaces, une fois qu'on les a implantées, on est tranquille pendant 2, 3, 4... Enfin, je connais une rhubarbe, alors pas ici, mais j'ai connu une rhubarbe qui avait 50 ans et qui donnait encore de belles tiges. Donc,
Caroline Turquet, montrez-moi une vivace. Alors, la vivace, qu'est-ce que...
Ici, on a une ciboulette, on a un pied de ciboulette qui redémarre. Ici, on a un romarin qui est un petit peu chétif, mais qui va reprendre.
Ça veut dire qu'à l'automne, elle s'éteint, on va dire, mais elle reste en terre ?
Non, cette ciboulette, elle est toujours...
Même l'hiver ?
Elle est plus belle au printemps, elle s'affaiblit un peu l'hiver, mais elle est toujours là. Par contre, on a les rhubarbes qui sont des vivaces. Alors, je vais vous montrer. Là, elle commence à réapparaître. C'est-à-dire qu'à la fin de l'automne, la rhubarbe disparaît complètement et elle ressort au printemps avec d'énormes bourgeons. Et là, on a déjà des feuilles qui sortent. Je vais vous en montrer une.
Alors, c'est marrant parce qu'au milieu de vos légumes, il y a aussi des jonquilles, si j'ai bien regardé.
Ouais, j'aime bien tout mélanger. Donc, oui, on a eu... dans les interstices, en fait, je mets des... Alors il y a des petites expérimentations et puis j'aime bien l'idée de mélanger les fleurs avec les légumes et les fruits, oui.
Alors là je vois qu'il y a des cordes, c'est l'endroit où on a le droit de marcher entre les deux cordes.
Voilà.
On y va ?
On va y aller, on va passer par la petite allée là-bas. Donc là on est face à ce qu'on appelle une parcelle qui est divisée en planches de culture et en passe-pieds. Les passe-pieds étant les espaces de circulation entre deux planches de culture. La règle ici, c'est de n'absolument jamais marcher sur la planche de culture parce que tout notre travail, c'est d'alléger au maximum le sol pour que les plantes puissent pousser de manière confortable sans que le sol soit compacté et devienne durci et empêche les racines de se développer correctement.
Voilà, on ne tasse pas la terre, hein, on fait gaffe.
Et c'est aussi pour préserver la faune qu'on chérit ici. On a plein de vers de terre, on a plein de bestioles dans le sol, c'est très très vivant.
Là, on continue à longer l'allée. Et nous voilà passe-pieds, c'est ça ? Ça s'appelle comme ça, hein, Caroline ? Ouais, on va avancer entre les rayons, entre les rangs.
Voilà. Le passe-pied est ici. Normalement, il est recouvert de broyat, mais il va falloir qu'on s'en occupe.
Ici, c'est quoi le broyat ?
Le broyat, c'est du bois fragmenté. C'est des morceaux de bois en fait qu'on utilise au sol pour absorber l'humidité, éviter de marcher dans la bouillasse. Parce que là, on est vraiment... Là, quand il pleut...
Faut les bottes.
Il faut les bottes. Il faut les bottes. D'ailleurs, on enlève nos chaussures quand on rentre dans l'école pour ne pas mettre de terre partout. Où on met des surchaussures, enfin on essaye d'être vigilant là-dessus.
Alors là, j'ai devant moi un rang de poireaux formidable. Moi, j'adore le poireau. Vous savez ce que j'adore, c'est le poireau vinaigrette.
Ah oui, c'est bon, une soupe au poireau, c'est pas mal aussi. Ouais, ouais. Bah là, voilà, poireau. De l'autre côté, là, c'est de l'engrais vert. Donc c'est un mélange de févrole et de différentes céréales qu'on va coucher bientôt, enfin qu'on va couper et utiliser en paillage pour nourrir le sol. Enfin, il y a vraiment tout un travail d'amendement du sol pour l'enrichir et pour que les plantes soient dans les meilleures conditions pour pousser. Là-bas, de l'autre côté, sous ce géotextile blanc, il y a une coriandre vietnamienne qu'on protège d'un éventuel coup de froid. On a un rosier, là-bas on a un sureau, là-bas un arbre dont j'ai oublié le nom, qui est juste un arbre ornemental. On a des artichauts, des pieds d'artichauts, on a un cornouiller rouge. On a des larmes de job qui sont des plantes qui donnent c'est une céréale qui donne des graines rondes qui sont percées naturellement et avec lesquelles on peut faire des bijoux qui vient d'Asie et qui est utilisé là-bas sur des broderies, sur des vêtements par exemple, broderies de survêtements, des bijoux, etc. Donc, voilà, tout ça, on essaye d'avoir, enfin sur ce site, que j'ai créé avec Ilan Calahora, qui ne travaille plus avec nous, mais qui était là au tout début du projet avec moi. L'idée, c'était vraiment d'avoir de construire un endroit qui allait être généreux, alors, si possible en production, mais en reproduction de plantes. C'est-à-dire, l'idée, c'était de démultiplier tout ce qu'on avait et pouvoir justement végétaliser les balcons de ce quartier. Et là, on sent que c'est un gros ratage parce qu'il y a quand même très peu de balcons végétalisés. Mais voilà, pour pouvoir donner, vendre tout ce qui... le maximum de choses. Donc des variétés qui se multiplient facilement, dont on peut facilement récupérer les graines, qu'on puisse bouturer, marcoter. Enfin, il y a plein de manières différentes de multiplier les plantes. Et des plantes, si possible, qui aient plusieurs fonctions, enfin, qui puissent être... jolie, qui puisse être mellifère, qui soit comestible, mais qui puisse servir peut-être à la vannerie ou qui puisse servir à des teintures. Alors ça, j'ai pas eu le temps de développer tout ça, enfin la teinture, mais tout ce qui est, on peut faire de la petite vannerie ici, on peut faire les aromatiques, on peut les sécher, on peut les manger fraîches, mais on peut aussi les sécher. Du coup, ce sont des ressources qu'on a l'hiver. Enfin voilà, d'essayer que ça soit le plus dense possible en opportunités et possibilités.
Alors j'ai découvert en préparant cette émission que Nadine Naoud a déclaré « Apprenez à vos enfants à jardiner, à récolter et à manger de leur propre travail. Le contact avec la terre nous apprend à aimer et respecter la vie. » Vous pouvez nous en dire plus ?
Ouais, bah alors ici on reçoit... le projet de Menuverdi, c'est vraiment de travailler avec les enfants. Nous ici, on est donc installé sur le toit de l'école Eva Côte-Chevert. On a longtemps travaillé avec les enfants de l'école, enfin des classes, la maternelle, enfin de la petite section au CM2. Et puis là, depuis 2 ans, on s'est plutôt concentré sur les activités en périscolaire. Donc on intervient sur les TAP le mardi après-midi et surtout on a créé un club jardin. La première année, on avait une heure. L'année dernière, on a inauguré une deuxième heure sur la semaine. Et l'année prochaine, on arrête l'étape et on aura 4 heures de club jardin, parce que c'est sur la demande des enfants. Donc là, c'est sur la base du volontariat. C'est avant ou après la cantine. Ils viennent jardiner avec nous une heure sur la parcelle pédagogique que je vais vous montrer là, dans 2 minutes.
On va y aller. Alors, Caroline Turquet, il y a une question que j'ai un peu évoquée tout à l'heure avec vous. Cette ferme urbaine reçoit des scolaires, vous l'avez bien décrit. J'ai le sentiment qu'on peut y accéder aussi de façon libre, mais il faut quand même s'inscrire. Racontez-nous si des auditeurs, des auditrices nous écoutent, ils se disent tiens, ça me branche le truc là, j'ai envie d'y aller. Comment ça se passe ?
Eh bien, pour venir sur le toit, comme on a une jauge à ne pas dépasser qui est de 19 personnes, moi j'ai besoin de savoir qui vient quand. Donc on a une adresse mail, je peux vous la donner.
Oui, on la donne sans problème.
eva-du6-cotechevert@veniverdi.fr et donc de m'envoyer un message pour me voilà que je, soit que j'indique aux personnes les horaires. En général, c'est le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h, mais de temps en temps on ouvre d'autres créneaux en fonction des besoins ou si la météo est magnifique ou s'il y a énormément de travail.
Ici, effectivement, on dépend aussi de la météo, c'est clair.
Ouais, après...
Après, on met les caouets s'il pleut.
Voilà, nous, on peut prêter des vêtements techniques, mais nous, on est là s'il pleut. Enfin, s'il y a des choses à faire et qu'il pleut, on ne peut pas tout le temps reporter et attendre qu'il fasse grand beau, quoi.
Donc, on va sur le site de l'association Veni Verdi, et là, on trouve l'adresse mail pour faire une demande.
Voilà, et on travaille aussi avec Benenova, qui est une plateforme qui met en lien des personnes qui ont envie d'aider et des associations qui ont besoin d'aide. Et donc, il y a aussi des créneaux avec cette association.
Oui, parce que c'est bien joli tout ça. On peut venir visiter, mais enfin, si on participe, ça donne un coup de main, c'est pas interdit. Alors,
moi, j'ai la particularité sur ce site de ne pas être sur du bénévolat de touristes, on va dire. Je mets vraiment les bénévoles qui viennent à contribution parce que c'est un site qui a été créé pour 2 personnes, 2 salariés, et là, je suis toute seule et en fait, c'est impossible à gérer seule. Donc, j'ai Thomas, enfin, chaque année, j'ai des services civiques qui m'aident. Là, cette année, c'est Thomas. Mais j'ai besoin absolument de l'aide aussi des bénévoles. Donc, je suis vraiment sur un... je forme mes bénévoles, enfin les gens qui reviennent régulièrement, je les forme vraiment à des gestes techniques. Là aujourd'hui par exemple, il y a deux bénévoles à qui j'ai appris à régler les cordeaux. Alors ça va être très technique, mais de régler les cordeaaux des planches de culture. Donc je leur apprends à... Bon, c'est difficile d'expliquer comme ça au micro. Enfin, vraiment,
c'est pas grave.
Tous les gestes, enfin tout le process, parce que là, je suis avec vous pendant cette interview, qu'il faut que ça soit fait. Donc
ça tombe bien.
Du coup, il y a une montée en compétences. Alors il y a des gens qui se passionnent et qui... Moi j'ai eu des gens qui ont décidé de virer leur cutie et d'aller voir un peu comment on pouvait se former, etc.
Bon, justement ça tombe bien, Caroline Turquet, on va faire une deuxième petite halte avec une deuxième pause musicale si vous me le permettez. La chanson qui va suivre est une chanson qui a été écrite après un repas, vous voyez, peut-être un repas de légumes, j'en sais rien. L'idée était d'écrire une chanson sur le thème de Paris le matin, on est en plein Paris, je me suis dit tiens allez Paris le matin. Les deux auteurs commencent à l'écrire le soir même et l'achève aux aurores. Le titre du morceau, c'est Paris s'éveille, interprété par Jacques Dutronc et composé et écrit par Paul Lanzmann et Jacques Dutronc. C'est sur Alix, c'est dans l'Étincelle dans la ville. Allez, on y va.
Vous écoutez Alix FM 93.1.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont raviées.
Bonjour, vous savez où vous êtes ? Eh bien vous êtes sur la messagerie de l'émission L'Étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Aligre FM 93.1. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Au bip, vous laissez votre message.
Messagerie, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Voilà, c'était Paris s'éveille, interprété par Jacques Dutronc, c'est dans l'Étincelle dans la ville, c'est sur Alix. J'espère que vous avez bien profité de cette petite perle que l'on vient d'écouter. Une façon d'illustrer la ville, d'illustrer Paris durant la nuit. Cette ville de Paris qui entoure votre ferme agricole urbaine, Caroline Turquet. Je le rappelle pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, nous sommes à Paris dans le 18e arrondissement de Paris, donc aux 4 rue Eva Kotchevert, près de la porte de la chapelle, à deux encablures du périphérique, entouré d'immeubles, voilà, en compagnie de nos deux invités. Nadine Laoud, en première partie, nous a raconté beaucoup de choses. Et vous, et avec vous, Caroline Turquet, on continue. Vous êtes donc membre et animatrice, comme vous m'avez dit, coordinatrice. Ouais. Quelle différence il y a entre l'animatrice et la coordinatrice ?
Au niveau travail, c'est pas la même, enfin, au niveau masse de travail, c'est pas exactement la même chose.
Pour l'association Véniverdi qui gère cette ferme urbaine, voilà. Alors, Caroline, Vous êtes installé ici, vous nous avez fait visiter une première partie. Là, il y a une deuxième partie. Où est-ce qu'on va aller, là ? Racontez-nous.
Donc là, je vais vous montrer la parcelle pédagogique. Donc, il y a une petite parcelle qui fait 35 mètres carrés, qui est destinée aux enfants, où ils peuvent jardiner. C'est-à-dire qu'on a une partie, on va dire, petit maraîchage professionnel, et une partie où les enfants peuvent vraiment pratiquer, planter, semer, renifler dans tous les sens, marcher où ils veulent. Et donc là on a la dernière séance, donc juste avant les vacances, les enfants ont identifié toutes les plantes vivaces, ont fait des étiquettes et les ont installées. Donc là on peut faire le tour des vivaces si vous voulez.
Ça veut dire qu'ils répertorient les plantes et avec vous et après ils mettent un nom sur ces plantes.
Voilà, parce qu'ils ont un peu de mal à mémoriser parfois les noms, puis parfois il y a des noms un petit peu compliqués, donc... Puis ce sont des enfants qui quand même sont très éloignés de... Enfin là, je vois au fil du temps, il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont... qui s'éloignent, enfin, qu'on éloigne de la nature ou qui sont éloignés de la nature.
Alors ça se comprend, en pleine ville, il n'y a pas de nature ou très peu.
Si, il y a de la nature en ville en fait. Si on y prête attention, il y a plein de choses qui poussent partout. Et on peut faire pousser des choses chez soi, etc. Mais voilà, ici, ils apprennent. On va voir ensemble les noms. Puis...
Allons-y. Allez, je vous laisse passer. Ouais. On continue cette petite visite. Alors, le jardin, vous m'avez dit, jardin pédagogique, c'est cela ?
Voilà, là, c'est la parcelle pédagogique. Donc là, les enfants, vraiment, on jardine, on les accompagne. Mais l'idée, moi, je voudrais qu'ils soient autonomes, en fait, sur cette parcelle et qu'ils commencent, au bout d'un certain temps, à avoir des réflexes, etc.
Quand vous dites autonomes, c'est-à-dire qu'ils prennent la bêche, ils prennent le râteau et ils cultivent.
Oui, alors ils ont accès à des semences, ils ont accès à des jeunes plants qu'on prépare nous en amont. Donc ils font des semis, ils plantent, ils arrosent, ils mettent du compost quand c'est nécessaire. Alors selon nos indications, enfin sous notre férule. Et donc là, voilà, ils ont tout étiqueté. Donc l'artichaut à son étiquette artichaut, le chèvrefeuille, qu'est-ce qu'on a là-bas, le cosmos. Alors cosmos, c'est pas une vivace, mais on sait que j'aurais expliqué que des jeunes cosmos allaient repousser parce que les graines sont forcément tombées à cet endroit-là, donc c'est un endroit à cosmos, donc ils sauront le retrouver. Ici, cet arbuste-là, en l'état, c'est compliqué de savoir si c'est un groseillier ou un cassissier, donc on a été renifler avec les enfants cette plante. Et ils ont découvert que cette plante ne sentait rien. Donc c'était un groseillier. Le cassissier a une odeur très forte, même à ce stade-là. Là, on a le rosier. Là, ce sont des asters. Là-bas, il y a sauge, ciboulette et verveine. Ici, il y a eu des tulipes, des narcisses. Ils avaient planté plein de bulbes différents. Donc ça va être la surprise de retour de vacances. Ils savent aussi qu'il y a un coin où la menthe va revenir. Donc,
ça veut dire qu'il y a un suivi, ils accompagnent au fur et à mesure des saisons les plantations dont ils s'occupent.
Tout à fait, donc on commence, le club jardin démarre la première semaine dès la rentrée en septembre et se termine la dernière semaine juste avant les vacances d'été.
Ça veut dire qu'ils ont la possibilité aussi de goûter les productions ?
Oui. Ouais. Je raconte toujours la même anecdote, mais je trouve qu'elle est très marquante. Un petit garçon donc du quartier dont les parents, viennent plutôt d'Afrique, je pense. On avait récolté des framboises et il ne voulait pas les goûter. Et j'ai mis un petit moment, tous les autres se ruaient dessus et lui non. Et en fait, il ne connaissait pas ce fruit. Et donc j'ai un peu insisté pour qu'il goûte, j'en ai goûté moi une en surjouant, en disant c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. Au bout d'un moment, il a accepté de goûter, et là j'ai vu le moment où il a croqué dans le fruit, et le moment où ses yeux ont fait des étincelles, ça marche avec votre émission, mais vraiment il a eu des étincelles dans les yeux, et voilà, ça a été la découverte d'un petit garçon de 8 ans de la framboise. Ça c'était magique quoi, et bon du coup j'en ai donné tout un bol, il s'est gavé de framboises, mais...
C'est un lieu de vie, vous le racontez très bien. C'est aussi des équipes, vous en avez évoqué tout à l'heure le système. C'est qui tout au long de l'année, à Veniverdi, entretiennent, et il faut entretenir chaque semaine finalement. C'est près de 9 jardins potagers. Vous avez cité des chiffres, je me permets de les redonner. C'est 500 enfants, 500 adultes qui viennent dans ces 9 jardins. C'est aussi des intervenants de la maternelle au lycée. Vous êtes reconnu par l'éducation nationale parce qu'il y a un vrai travail pédagogique qui est effectué ici.
Oui.
Caroline Turquet, le temps tourne. Si vous me permettez, on va retrouver Nadine Naoud pour conclure tous les trois. Sur cette ferme urbaine où nous trouvons actuellement. Alors, je vais interrompre Nadine qui est en pleine discussion. Nadine Naoud, si vous me le permettez, voilà. On va revenir à la faupe. Alors, on a fait la visite du jardin, c'était détaillé. Hein. Il y avait tout, on a eu droit à tout. La faupe, l'Association française de l'agriculture urbaine, ce sont des réseaux. Alors, c'est aussi des formations et des emplois. Racontez-nous.
Oui, de la FOP, il y a une émanation qui s'appelle le REFOR, et effectivement, on travaille énormément à mobiliser, à mettre en place des formations et à mobiliser des publics qui veulent se reconvertir dans nos métiers, parce que nous sommes des métiers en tension. On cherche à recruter et on ne trouve pas toujours nos profils nécessaires par rapport à nos différents métiers, parce qu'il y a énormément de métiers dans l'agriculture urbaine.
L'étincelle d'Alain Ville va bientôt se terminer, mesdames, et oui. Mais avant de nous quitter, je voudrais bien sûr vous remercier toutes les deux. Merci Caroline Turquet, merci Nadine Naoud, merci d'avoir répondu présent et d'avoir bien voulu nous accueillir dans la ferme urbaine que vous gérez avec l'association Veniverdi. et bien sûr cette ferme urbaine d'où nous avons réalisé cette émission. Donc un grand merci à toutes les deux. Merci d'avoir voulu témoigner et nous avoir fait découvrir plein de choses. Moi j'ai appris beaucoup de choses. Oui, Nadine ?
Je voudrais mettre un petit mot de conclusion. C'est un enfant qui m'a dit ça un jour. Il paraît qu'il faut prendre son mal en patience si on prenait notre bien en urgence.
Voilà une conclusion intéressante. Voilà. C'est un mouvement qui est promis à un avenir certain et un développement incroyable, j'en suis convaincu. Et je voudrais aussi au passage remercier Anne-Sybille Riguidel, grande navigatrice de l'information, qui m'a ouvert les portes de votre lieu et de ce que j'ai découvert. J'espère qu'il en est de même pour les auditeurs. Des témoignages pleins d'enseignements, pleins d'avenir. Moi, j'en ai appris des trucs. Hein. En tout cas, pour ma part, c'est le cas. Et j'espère que c'est le cas aussi pour les auditrices et les auditeurs. Voilà. Vous pouvez retrouver l'adresse mail et les produits de l'étincelle dans la ville sous forme de podcast quand vous voulez sur le site d'Aligre FM, sur Acast, sur Spotify, sur YouTube. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et LinkedIn. À la réalisation technique, Didier Robert, que je salue chaleureusement. Avant de nous quitter, laissez-moi vous préciser qu'Aligre FM est une radio avant tout libre, un espace d'expression, de partage, de rencontre, j'espère que ça a été le cas aujourd'hui, animé par un collectif de gestionnaires, de journalistes, d'animateurs et de réalisateurs techniques, libres et indépendants. Voilà, et au passage, je signale que nous sommes tous bénévoles. Voilà, tout au long de l'année, au micro d'Aligre FM, nous recueillons des paroles en prenant le temps de penser, de scruter ou de contempler le monde dans toutes ses composantes. Je voyais que vous étiez en train de contempler le ciel, vous, Nadine.
Je regardais une pie.
Ah. Vous avez vu passer une pie ? Et il y a des oiseaux qui s'installent ici de temps en temps ?
Alors une pie chez nous, ça m'étonnerait, mais d'autres oiseaux, oui, sur certains sites, on a déjà vu plein, des mésanges, des geais, un faucon crécelle, qu'est-ce que t'as encore vu chez toi ?
À nous, on a plein de mésanges. Mésanges, moineaux, on a un couple de pies et un couple de corneilles, mais qui font pas de dégâts.
Qui font pas de dégâts. Aligre FM, je continue, c'est sur votre poste de radio en FM sur le 93.1, sur le DAB+, la radio numérique terrestre, mais c'est aussi sur vos écrans grâce au web, partout. C'est aussi quand vous voulez pour retrouver en réécoute donc toutes les autres émissions de la grille des programmes d'Aligre FM. Je vous encourage d'ailleurs à aller faire un petit tour sur le site d'Aligre FM pour en savoir un peu plus. Permettez-moi de vous rappeler que c'est gratuitement que vous écoutez nos programmes, et oui, c'est comme ça, car Aligre FM est un média entièrement gratuit, et pour l'occasion, je voudrais préciser que nous sommes une radio associative non commerciale, sans publicité commerciale, une radio libre qui fête ses 45 ans, et c'est loin d'être anodin. Vous voulez aider Aligre FM, bah c'est pas compliqué, vous allez sur le site d'Aligre FM et vous faites un don, voilà. Et je voudrais remercier le collectif des réalisateurs d'Aligre FM, ainsi que celui qui le dirige, Bruno Mandé, Enrico Mastroianni, Renaud Poncin de Vouille, Philippe Donnefort, Armand Guy. Il faut penser aux équipes, c'est très important. Ainsi que le collectif Le Moment, notre partenaire qui réalise une émission qui a pour titre Le Moment et que vous pouvez retrouver chaque semaine sur Aligre FM. À la post-production, merci à l'équipe qui s'en occupe, Didier Robert, Stéphanie Malaret, Gaspard Proudhon. Il me reste simplement à prendre congé de vous. Au revoir Caroline Turquet.
Au revoir.
Et bien sûr, tenez-nous au courant. Au revoir Nadine.
Au revoir.
Voilà, ça s'est bien passé, ça va ?
Ça va, je survivrai. Bon.
C'était depuis la ferme urbaine située à l'école Côte-Chévert dans le 18e arrondissement de Paris que cette émission a été réalisée et nous y avons été merveilleusement bien accueillis. Le café était très bon, merci beaucoup. Et pour le coup, en ce qui me concerne aujourd'hui, eh bien, l'étincelle dans la ville, c'est terminé et on se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir.
Les brouillages de sinistres mémoires ont repris.
En cas de brouillage, cherchez une noyeur sur votre cadran.
Aligre FM 93.1.
On peut changer la fréquence en une demi-heure.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.